Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Comment? Mais ça a déjà commencé.
Mais oui, tu étais parti. T'étais où?
Bah, j'étais pas bien loin. J'étais chercher quelque chose dans ma voiture que j'avais oublié.
Ouf.
Voilà.
C'était important. Arrête de
shit. Non, je rigole. Donc, en fait, ce soir, c'est la rentrée, Jeffrey.
Oui.
Vous avez entendu la voix de Jeff Jordan.
Oui. Bonjour à tous.
Jeffrey Jordan, bonsoir.
Bonsoir, Gérald.
Tenu avec ton petit cartable parce que c'est la rentrée.
Ouais. Et puis, t'as vu, j'ai rasé ma moustache.
Ah oui, ça, on peut pas le voir à la radio.
Mais
je ne sais pas, parce que on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard. Tu as un nouveau spectacle.
Oui,
est-ce
exactement.
Est-ce que c'est en rapport à ton nouveau spectacle?
Alors, ça devait être une expérience, mais un peu ratée, on va dire. Alors, bon, je vais revenir sur, sur mes anciennes amours poilues.
C'est vrai que quand je t'ai vu sortir du métro, je me suis dit, tiens, quel est ce petit jeune homme qui ressemble vaguement à Jeffrey?
Tu as failli me draguer?
Avec son... Oh ben non, parce que je suis pas pédophile quand même.
Quand même.
Donc, ce soir, nous accueillons, en plus de Jeffrey Jordan, je salue aussi mes amis de la régie, Bernard et Boris, qui font aussi leur rentrée à la technique.
Nos petits poissons rouges.
Voilà, alors moi, je me suis dit, rentrée oblige, on va inviter les associations étudiantes.
Et oui.
Et Exit a répondu à l'appel.
Exit.
Non, Exit.
Exit.
Exit. Exit nous excite. Donc, je vais laisser les membres de l'association ici présents, ils sont en nombre de 3, ces membres, se présenter. On commence par qui? Par ma gauche.
Moi, je suis responsable de la communication, je m'appelle Lila et j'ai repris le bureau donc, cette année à Exit. Et aujourd'hui, je suis avec Léna, qui est notre secrétaire, et Charlotte, une membre de l'association.
Bonjour.
Bonsoir à toutes. Voilà, donc Exit, c'est une association étudiante, comme je l'ai dit, qui est basée sur le campus de la Doua. C'est l'association du campus de la Doua.
Alors, plus précisément, en fait, c'est l'association de l'INSA.
D'accord.
C'est une association qui est rattachée à l'INSA, mais qui accepte des étudiants venant de partout dans
D'accord. Alors, justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que le campus de la Doua regroupe plusieurs pôles. Je voulais savoir si, par exemple, vous venez de répondre à la question. En fait, à la base, c'est l'INSA. Moi, je pensais que ça pouvait être Lyon 1, par exemple, parce que je crois que Lyon 1 sont sur le campus de la Doua, c'est Claude Bernard. Et je me suis dit, bon, ça doit émaner peut-être de Lyon 1, mais ils acceptent tout le monde. En fait, c'est l'INSA, c'est l'école d'ingénieurs, donc.
Tout à fait.
Donc, à la base, Exit, c'est une émanation de l'école d'ingénieurs, d'étudiants de l'INSA, mais vous acceptez tout le monde.
Exactement.
Ah, c'est super, toi, ils pourront peut-être t'accepter quand tu auras atteint le grade universitaire.
Tu penses?
Ouais. Alors, du coup, je voulais savoir, Exit... Pourquoi je dis Exit?
Exit.
Ah ouais, bref.
C'est beaucoup plus sensuel.
C'est plus fort que moi. Oui, Exit. Exit. Quelle est donc la mission de l'association déjà à la base? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme mission?
Eh bien, donc à Exit, en fait, on n'a pas de mission forcément militante à proprement parler. C'est-à-dire qu'on se contente d'organiser des soirées tous les premiers lundis du mois dans un local... qui n'est pas très grand.
Qui est ce qu'il est, d'accord.
Voilà. On s'entasse donc dans un petit local et on fait des apéritifs tous les lundis.
Un petit local qui vous est généreusement prêté par, l'INSA.
Par la Doua. Et vu qu'on est rattaché à l'INSA, mais comme le disait Léna, en fait, on accepte des étudiants et même des non-étudiants de tout Lyon. Et on essaye en fait de créer des espaces safe et pour que chacun puisse échanger sans qu'il y ait jugement, en fait.
D'accord, parce que il peut y avoir jugement aussi dans le milieu étudiantin par rapport aux thématiques LGBT, par exemple. Vous pensez qu'il y a encore des discriminations, par exemple, au niveau de l'INSA, au niveau de Lyon 1, au niveau de tous ceux qui sont présents sur le campus, quoi.
Alors, il peut y en avoir, mais surtout, ce qu'on remarque, c'est un silence, en fait.
Ah.
On n'entend pas beaucoup parler de cette thématique-là dans le milieu étudiantin.
Ouais.
Et du coup, on essaye d'en faire parler et de dire qu'il y a un endroit où vous pouvez parler, où vous serez écouté, où vous pourrez vous faire des amis et discuter de ces choses-là.
Alors, est-ce que tu es en train de me dire, par exemple, que les gays, les lesbiennes, éventuellement les trans, sont invisibles?
Ils ne sont pas invisibles. Ils sont là, c'est sûr. Mais en tout cas... Pour ce que je peux dire dans mon école, donc je suis dans une école à côté de l'INSA, une école d'ingénieurs, et on n'entend pas parler de ces choses-là. Entre amis, on va en discuter, mais et on n'aura pas d'interaction avec la direction ou avec d'autres associations par rapport à ça.
D'accord.
Bien. C'était Bernard qui est intervenu en
fait. C'est Bernard, notre technicien.
Voilà. Qui, il est venu me susurrer des choses à l'oreille.
Contrôle les micros.
Ouais. Alors, donc pour revenir à tout ça qui est fort intéressant et fort surprenant en même temps, parce qu'on a toujours l'impression quand même que milieu étudiant, c'est jeune, c'est moderne. Mmh.
Ouvert d'esprit.
Voilà. 68, par exemple, c'est les étudiants. La libération homo, en partie, ça a été les étudiants, etc.
T'avais déjà quoi, 40 ans, toi, non?
Non, pas... je n'étais pas née. J'étais encore dans les couilles de mon papa. Alors j'exagère, j'étais déjà né, mais j'étais tout petit,
ah,
petit,
d'accord,
plus
d'accord.
Petit que toi encore.
Oui, voilà. Certainement.
Donc du coup, oui voilà, c'est ce qui est un peu surprenant. Alors donc vous, en tant que exit, vous finalement vous réunissez des étudiants du campus qui se retrouvent dans un lieu safe, parce que tu as parlé d'un lieu safe, ça veut dire qu'ailleurs c'est pas safe finalement sur le campus.
C'est-à-dire qu'en fait, dans tout endroit qui... sans que ce soit pas safe, en fait, c'est comme le disait Léna, c'est-à-dire que même si, oui, les homosexuels, les trans sont là, mais plus que ne pas, plus qu'en parler mal, en fait, on n'en parle pas. Mmh. C'est-à-dire que, surtout à l'INSA, apparemment, enfin, moi, j'y suis pas non plus, mais de ce qui en revient de nos amis qui y sont, c'est vraiment le fait qu'ils sont oubliés en fait à chaque fois et qu'il faut réaffirmer régulièrement le fait que non, je n'aime pas tel type de personne comme tout le monde aurait pu le penser.
Est-ce qu'il y a un exemple de ça, par exemple, de quelque chose qui s'est manifesté dans ce sens? Enfin, dans ce non-sens, du coup
Je suppose que oui, sinon l'association ne serait pas née, en fait.
D'accord.
Moi, je le vis peu. Puisque je fais des études de lettres et de langues, donc...
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, selon les sections, peut-être.
Voilà, selon les chapelles, effectivement, il peut y avoir des différences notables. On suppose qu'à l'INSA, ça sera plus difficile que quand on est en fac de lettres, par exemple. Comme quoi, on revient toujours au même... Il y a aussi une section sportive, il y a un UFR, je crois, le STAPS, et là, ça doit être encore plus difficile, parce qu'ils forment, en fait, des profs d'éducation physique, ou... Et là, c'est encore plus un milieu, encore certainement beaucoup plus invisible.
Le sport, on en a parlé.
Oui, on en a déjà parlé avec Philippe Yotard, d'ailleurs, de l'Université Lyon 1. Voilà, qui est déjà venu ici plusieurs fois à l'émission. Bref, donc, alors qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes dans votre petit local, comme ça, perdu au milieu de la Doua? Vous recevez des gens, vous leur offrez du thé, du café?
Alors, c'est un petit peu...
Ah non, j'en reviens, non, je suis désolée.
On n'en parlera pas.
Donc,
c'est un petit peu l'idée. On va leur dire qu'on a une réunion le premier lundi du mois.
Ouais.
Donc, on se réunit dans notre petit local, comme on a parlé, Lila. On les invite à apporter quelques chips, quelques bières pour partager un apéritif tous ensemble. On s'assoit sur les canapés, on va discuter de choses et d'autres. Évidemment, les conversations qui reviennent souvent, c'est l'homosexualité, le transgenre, toutes ces idées-là. On essaye d'avoir quelques livres en rapport avec... avec cette thématique. Par exemple, il y a le livre de Stop Homophobie. On a aussi tenté plusieurs fois de faire des projections de films en rapport avec l'LGBT. Donc, on en a fait un l'année dernière dans les locaux de l'INSA. Et donc, c'est parfois assez difficile de réserver une salle. On va essayer d'en faire de plus en plus. On organise aussi une soirée chaque année dans la cafette de l'INSA, donc il y a une petite salle de spectacle et bar donc sur le campus, donc où on a pu réunir des étudiants. On a fait venir le club musique de mon école, l'école qui est à côté, CPE Lyon, pour mettre l'ambiance, et c'était un moment très très sympathique. On a un bon retour de tous ceux qui viennent dans l'association. Donc on a eu de plus en plus de membres tout au long de l'année. Au début, beaucoup de gens de l'INSA et de la DOA, puis de plus en plus des gens de Lyon 2, de Lyon 3.
De l'extérieur.
Mais voilà. C'est gay-friendly aussi, c'est-à-dire que c'est ouvert pas seulement aux étudiants qui se sentiraient concernés.
Oui, bien sûr. Oui, il y a aussi évidemment des gens qui vont être hétérosexuels et cisgenres qui vont pouvoir venir sans aucun souci.
Et l'association existe depuis combien de temps? C'est ce que vous le savez.
17 ans.
17 ans.
Et voilà, 17 ans. Ça a été fondé en novembre 1999.
Donc, vous avez aussi des interactions avec les autres pôles présents sur le campus, puisque vous organisez aussi des actions extérieures, je dirais. Est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, eu l'idée de faire des formulaires à remplir pour faire des statistiques, des sondages sur les étudiants de la DOUA? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, c'est... pour savoir un peu la perception justement qu'ils ont de des choses, parce que tu vois, je trouve Jeffrey Jordan, et vous m'arrêterez si je me trompe, je trouve qu'à notre époque, alors qu'on pourrait penser que finalement l'homosexualité est quelque chose qui est très normalisé, entre guillemets, avec le mariage pour tous, etc., et je trouve que les homos, globalement, restent invisibles, que ce soit dans le monde scolaire, universitaire, et aussi, à part quelques endroits particuliers, on parlait de la fac de lettres, mais aussi dans le monde du travail.
Invisible dans quel sens ?
Invisible, parce que beaucoup d'homos ne parlent pas de leur... de leur vie, même certains qui vivent avec une personne de son propre sexe, par exemple.
Parce qu'après, certains peuvent aussi spontanément ne pas vouloir le
montrer. Voilà, et je veux dire, ne pas vouloir le montrer, c'est souvent ce qui, je trouve, à l'heure actuelle, est le plus restant. Ah oui, ça, tu vois, le chien est d'accord avec moi.
Il y a un chien, oui, ouais, qui est d'accord avec moi.
Non, je veux dire, c'est ce qui reste le plus, l'attitude majoritaire à l'heure actuelle, encore, aujourd'hui. À part dans des professions bien ciblées, à part dans, comme on disait, à la fac de lettres, etc. Mais il y a beaucoup de lieux où être homo, c'est...
C'est tabou.
C'est tabou. Les gens ne veulent pas en parler, n'osent pas en parler. Ils considèrent que c'est quelque chose de privé.
On en vient tabou.
Voilà. Je sais pas, donc c'est un peu ce qui en ressort. Quoi. J'imagine, si à la doigt, c'est le constat qui a été fait, c'est pour ça que vous existez, donc, en quelque sorte. Vous pouvez aussi créer des relations, des liens entre les étudiants, entre eux, qui puissent se rencontrer, etc., je suppose.
Oui, oui, tout à fait.
Et après ça, des répercussions dans le campus en lui-même, je sais pas, des étudiants qui vont, des couples qui se forment, non, je rigole. Quoique. Non, après, il y a une espèce de solidarité qui se crée, vous vous reconnaissez. Sur le campus, enfin, je sais pas.
Alors, c'est sûr qu'il y a une amitié qui s'est créée entre tous les membres de l'association, qui fait qu'après on va se retrouver dans d'autres circonstances que dans le local de l'association. Ouais. On va se retrouver après entre amis, et donc c'est très agréable. Après, pour ce qui est de l'accueil de l'association dans le campus, je sais pas trop parce que je ne vais pas dans tout le campus. En tout cas, pour ce qui est de mon école, j'ai présenté l'association en début d'année aux nouveaux arrivants, parce qu'on a une journée où on présente toutes les associations de l'école. Et donc j'ai proposé à mon BDE de présenter Exit, qui ne fait pas partie de mon école, mais c'est la seule association LGBT du coin, alors autant en parler. Et tous les gens qui m'en ont parlé ensuite ne se sentaient pas forcément concernés, mais trouvaient que c'était une très bonne initiative d'en avoir parlé.
Donc Exit a vraiment sa raison d'être sur le campus, quoi. C'est important. Oui. Exit existe. Bien. Jeffrey Jordan.
Oui.
Je crois que toi aussi, tu as quelque chose à nous dire. Tu as monté ton association ou je ne sais pas quoi.
Absolument.
Que tu me racontais.
Absolument.
Alors.
Alors, chers amis... qui commence son truc. Chers amis, sachez qu'il existe au sein des universités d'autres associations un peu moins connues. Et oui, Gérald... J'ai moi aussi monté plusieurs associations étudiantes. Alors la première, c'est une association qui défend les élèves qui ne veulent pas venir en cours. Tout simplement, ah oui, les adeptes de l'école buissonnière, ça s'appelle d'ailleurs les Buissons Ardents. Ah. On a quand même 1340 membres actifs, hein. Très actifs, même parce qu'en réalité on ne les a jamais vus. Alors forcément, il n'y a pas de pointeuse, vous voyez à quel point ça marche. Alors, les réunions sont très courtes, puisqu'en tant que président, eh bien, je suis tout seul à débattre. Alors, moi, je veux bien débattre avec moi-même, mais c'est usant quand même. Ouais. Bon. Alors la deuxième, c'est une association comme il en existe trop peu. Une association qui aide les profs dépressif. Oui, on regroupe les plus atteints psychologiquement. Alors généralement, ce sont plutôt les profs de maths ou de sciences en plein syndrome régressif. Ils arrivent au bureau de l'association entre midi et deux, main dans la main, en chantant des comptines. Ils s'assoient par terre, un élève bénévole leur lit des histoires de Pied Nickelé ou de Peter Pan. Et on leur diffuse même des épisodes de Pascal le Grand Frère, que là, ça, c'est quand ils sont vraiment à bout. Hein. Alors, bien sûr, on récolte des fonds toute l'année pour leur distribuer des doudous, des tétines, et qu'ils puissent secouer le hochet peinard pendant une heure. La troisième, c'est une association qui lutte pour les droits des animaux, le droit des animaux à l'école. En fait, on incite les élèves à venir en cours avec leurs animaux domestiques. Bah, Harry Potter a bien une chouette, je vois pas pourquoi Jean-Francis de 3ème B à Sainte-Foy-les-Lyon n'aurait pas le droit d'amener son autruche. Et oui, il faudrait leur apprendre aussi le Potter Noster. Une petite incantation, c'est toujours conseillé contre les attaques terroristes. Alors, attention, là je parle des Pokémon, hein, évidemment. Oui, parce que si la petite Marie-Louise de 6ème 3 à Écully ramène le pitbull de son grand frère, non seulement Pikachu fera beaucoup moins le malin, mais surtout les petites racailles du collège arrêteront de lui piquer son Kinder Pingouin à la récré. Et ça, c'est une avancée à laquelle Najat aurait dû penser. Et puis bien sûr, la quatrième association qui me tient tant à cœur, c'est une association LGBT. pour tous les EBT, hein, comme nous. Sauf que la mienne ne s'appelle pas Exit, mais Tu m'exites. Et contrairement à vous, nous, on n'organise ni sortie ni événement. Non, au contraire, on reste tous ensemble, bien fermés à clé dans le local. On fait de la sauce. De Strasbourg,
oui,
pendant qu'on
sûr.
Y est. Hein, voilà. Ah ben, on n'attrape pas les chiens avec des saucisses. Bon. Et la différence avec vous, c'est que nous, on ne fait pas de permanence, mais des permanentes.
Ah oui,
oui, oui. Alors la seule condition pour participer, bien sûr, c'est qu'il faut avoir un peu de cheveux, sinon c'est inutile. Alors, continuez à cultiver le milieu associatif, et pour éviter que la sauce fasse chou blanc, eh bien, réunissez-vous, réunissez-nous. Voilà. Et pour être, je vais reprendre du début. Et pour éviter que la sauce fasse chou blanc, réunissez-vous, réunissez-nous, qu'on puisse enfin se mélanger tranquille.
Très bien, bravo, Jeffrey.
C'est efficace, non, comme
oui,
association.
Oui, oui, c'est, oui. C'est très bien, c'est très bien. Il fallait y penser. Et puis, c'était la rentrée donc de Jeffrey Jordan.
Absolument. Voilà, c'était la rentrée. Ah,
notre pluie de grêle.
pluie de grêle. Qui...
L'applaudissement normalement, hein, le bruitage.
Oui, oui, il faut préciser, oui, effectivement. Donc, Exit, on va écouter un petit morceau de musique, mais je voudrais savoir si vous participez à la Marche des Fiertés.
Alors, bon, moi personnellement, j'ai pas pu y aller cette année.
Ouais, mais je veux dire Exit, hein, même l'association.
Exit
est...
en tant qu'association.
Pas de char,
en fait,
pas de.
Non, on n'est pas une association qui se veut militante, en
d'accord.
fait. Et on préfère laisser à chaque membre le choix d'y aller ou non, par exemple. Donc, quelques membres y sont allés, je sais, ensemble, sans moi. Et oui, en fait, on est une association où on est tous à peu près amis les uns avec les autres, on essaye de se réunir pour y aller ensemble, mais on évite quand même
pas
d'y aller en tant qu'association elle-même pour éviter de culpabiliser ceux qui n'aiment pas la marche des fiertés, puisqu'il y en a, et qui ne se sentiraient pas concernés par cet événement. Et voilà, en fait, toujours dans l'idée qu'on est quand même une association plus conviviale que militante. Donc non, on n'y participe pas en tant qu'association... en elle-même.
D'accord.
Mais oui, les membres y sont.
Et du coup, l'année dernière, j'ai vu que vous avez organisé une soirée d'intégration, si je me trompe. Non. Je me trompe. Non, non, j'ai rêvé. Non, j'ai vu une petite affiche passer le 11 septembre, soirée d'intégration avec l'asso Lyon 2. Bon, d'abord, j'ai pensé que c'était cette année.
Ah.
Et puis en fait, non, c'est l'année dernière apparemment. Ou alors c'est l'année d'avant peut-être. J'ai trouvé ça sur le net.
Oui, à Lyon 2, ils avaient bien organisé une journée d'intégration.
Ouais.
Mais je ne sais pas du tout comment ça s'est poursuivi parce que moi, je suis allée faire un tour à l'association LGBT de Lyon 2 et ça ne m'a pas plu leur façon d'aborder la chose. Donc je me suis retranchée sur Exit.
D'accord, ouais. D'accord. Alors il faut savoir que Lyon 2, je les avais invités aussi. Donc finalement, ils ont bien fait de ne pas répondre. Mais bon, voilà, ils n'ont pas répondu effectivement à ma demande. J'aurais voulu avoir donc plusieurs associations, mais Exit, c'est très bien, me convient très bien. Si, toi, regarde, tu me regardes, Boris, envoie la musique. Oui.
Was on a roll, I've been told, he can't be so.
precious, oh malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another.
Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of a rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Hit, get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it. The groove is in the heart.
À nous, à nouveau, mais moi je suis j'en suis aujourd'hui, j'habite, mais c'est la rentrée, tu es perturbé. Puis c'est la chaleur aussi, c'est la chaleur parce qu'il fait très chaud dans le studio. Voilà, alors j'en fais un appel à la direction de la radio, mettez-nous la clim, par pitié. On veut bien se cotiser, mais là c'est insoutenable, un vrai sauna. Les invités d'ailleurs sont en train de se liquéfier. Alors, donc on disait en antenne, en fait vous êtes toutes nouvelles à Exit. Hein. Alors, Exit existe depuis 17 ans, vous le disiez, mais vous, vous êtes des nouvelles arrivantes à l'association depuis cette année, l'année dernière, depuis combien de temps vous y êtes ?
Alors on est, enfin moi c'est l'année dernière.
Oui, moi aussi, je suis arrivée en septembre.
Je suis à Paris. Donc voilà, on a commencé à venir à Exit l'année dernière. Ouais. Et Elena et moi sommes responsables du bureau avec trois autres personnes depuis cette année.
Depuis juin.
Ok. Voilà. Et vous émanez donc, il y a la faculté de lettres à ma gauche.
À Lyon 3, oui.
Lyon
c'est
3,
ça.
L'INSA.
Et moi, je viens de Lyon 2.
Lyon 2, voilà, très bien. Alors, tu sais, mon petit Jeffrey, je voulais te dire quelque chose.
Oui.
On vit une époque formidable.
Ah oui, certainement. Ah,
c'est vrai. Et du coup, 21e siècle, je trouve que c'est une époque formidable. Et justement, grâce à tous les moyens de communication dont nous disposons en 2016, j'ai un fan, le fan
non.
de l'émission. Il m'a envoyé un message. Il a dit qu'il était complètement addict de l'émission, mais ça, c'est normal. Hein, quand on nous écoute, on devient addict.
Et puis quand on nous voit, c'est encore pire.
Ah oui,
c'est encore mieux, je dirais.
Oui, oui. Les gens, on doit courir, les gens veulent nous arracher nos vêtements.
Ah bon, on est obligé de mettre un mec à la sécurité à l'entrée.
Absolument. Hein. Et donc, il m'a envoyé un petit message en me disant qu'il avait enregistré des petites histoires qu'il n'a pas écrites lui-même, mais il les a enregistrées. Et il me disait qu'il aimerait bien qu'on les diffuse sur l'antenne.
Bien sûr.
Alors moi, j'ai un peu hésité à cause du nom déjà de la personne. Ça s'appelle Arletto. Alors Arletto, je dis, c'est pas très très sérieux comme nom. Ça fait
pourquoi
un peu...
Hein ? Ça fait Arletti.
Oui, ça fait Arletto. Et puis, il m'a dit, si tu refuses, je balance tous les dossiers que j'ai à ton sujet. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de passer le son de Arletto.
Il y a du dossier sur Gérard Rousseau.
Bah apparemment oui. Et Arletto en possède un certain nombre. Donc sous la menace, j'ai donc accepté de diffuser les sons d'Arletto. Alors normalement je vais distiller un son par semaine.
Ah.
Voilà. Et là c'est le premier son.
Premier son.
Alors à l'accent, je pense que Arletto est un titi parisien. Arletto, ah. Arletti, tu vois.
Donc c'est un vrai Arletto.
Voilà. Alors les textes ne sont pas de lui, mais ils sont dits par lui. Le premier texte qu'on va entendre s'appelle Les Malabars d'Afrique. Et c'est Malabars d'Afrique, donc c'est issu d'un livre de Jean-Luc Henning. Je ne sais pas si tu connais Jean-Luc Henning. Il s'appelle Mes Rendez-vous. Voilà. Donc on va écouter Arletto. Les Malabars d'Afrique par Arletto.
Ah, vous savez, il y en a, ils sont tellement zinzins de l'Afrique et de ces types géants en ébène massif, large comme tout et endurant comme des mammouths, qu'ils se feraient dépecer vivants pour en trouver. C'est bien simple. Ils ne rêvent que de forêts vierges, d'orages tropicaux et de lits de feuilles dans des cases en boue et de sang chaud qu'on boit à la gorge du buffle. Bon, ici, c'est pas courant. Alors, à défaut, bah, ils s'offrent le luxe de petites concentrations noires dans leur appartement. Des Antillais, des Malgaches, des Mauriciens, enfin un peu de tout. Les Noirs s'enculent en tas devant eux pendant qu'ils font le service, qu'ils leur apportent des drailles très forts ou des cocktails au lait de panthère. Eh oui, ça existe. Les autres ratissent systématiquement tous les foyers de banlieue dans leur van allemand avec vidéo et TV couleur. C'est très utile, comme ils disent, pour la prospection. Ils ont toujours avec eux des coupures de 20 balles et ils finissent dans des cités qui sentent le couscous et le riz au poisson. Ils trouvent bien 25 types dans la nuit pour leur trouver le cul et ils rentrent vers les 8 heures complètement abrutis. Il y en a même qui changent carrément de quartier pour s'installer dans des impasses impossibles du 18e, au milieu des marabouts en tunique, des petits bistrots où l'on mange du porc épic et du manioc roulé dans des feuilles de bananier et tous les bruits de l'équateur. Et puis, il y a ceux qui font le grand voyage, comme Pierre, il a 39 ans, décorateur à Paris, qui s'échauffe tout à fait devant l'Africain ou devant le Brésilien. Alors forcément, toutes ses vacances, il les passe en Amazonie ou alors à Cotonou. À cette époque, il fait 35 à 40 degrés, la terre n'en peut plus de chaleur, c'est une braise. Et ben, croyez-moi, les Africains, là-bas, c'est tout pareil. Bref, la première fois, il avait emmené le Spartacus, mais que dalle. On disait que l'ex-Dahomey était l'un des paradis perdus pour les gays, mais qu'avec la République Populaire, il n'y avait pas ma cache. Le King's Club ou le Playboy's Club n'étaient qu'un repère de filles. Et pour ce qui est du boulevard de France, c'était une grande plage un peu déserte avec une palmeraie qui longe le palais présidentiel. Eh ben, c'était son coup de chance. Figurez-vous que sur le coup de 4h de l'après-midi, il voit arriver là un beau militaire en treillis un peu déchiré, képi et rangers. Lui, il croit d'abord à un contrôle, mais pas du tout. Le type l'avait remarqué du mirador d'en face et il venait traîner comme ça pour voir. Il s'appelait Barnabé. Dans les 29-30 ans, extrêmement noir, un nez cassé de boxeur, des favoris jusqu'au milieu des joues et des pectoraux superbes, vraiment la beauté sur la terre. Pierre commençait à bander sec et voilà que Barnabé s'installe gentiment à 50 mètres de lui qui lui fait un petit signe et tout. L'autre, évidemment, il attendait que ça. Il lui raconte qu'il cherche des coquillages, il blague un peu, bref, ils font connaissance. Finalement, Pierre lui propose de se foutre à l'eau. Barnabé, qui finissait sa journée de garde, n'avait évidemment pas de slip de bain. Mais Pierre avait tout un petit sac de choses assez courtes. Et voilà que le type se déloque devant lui, les pompes, les deux paires de chaussettes de laine trouées, la chemise, enfin tout. Il baisse le pantalon et Pierre n'avait que Dieu que pour lui. Mais Barnabé ne bandait pas. Et les voilà partis dans l'eau. C'est l'Atlantique, hein, y a beaucoup de vagues. Ils se laissent emporter par les rouleaux et se retrouvaient tous les deux le slip baissé, c'était très enchanteur. Pierre faisait du sous-l'eau en lui passant entre les jambes, il essayait d'attraper sa queue en passant. L'autre, il riait comme tout. Il avait d'ailleurs autour de la taille un petit cordon avec un petit sac en cuir rempli de poudre donné par un charlatan du village pour éloigner les mauvais esprits. Barnabé ne le quittait jamais, il croyait beaucoup à ces choses-là. Bon, ils vont sécher un peu au soleil et on cause du pays, des filles, des garçons, tout ça. Pierre avait remarqué que Barnabé ne paraissait pas du tout effarouché sur le chapitre des garçons, il faisait l'évasif. C'était comme un petit oui, quoi. C'était bon signe. Ils vont dîner. Et finalement, Pierre lui propose de monter à la chambre. L'autre le suit. On se met à l'aise, on se fout en slip sur le lit, juste sous le ventilo. Le noir était splendide, il faisait du karaté, ça se voyait. Pierre commence à le caresser un peu, il bandait comme un détraqué, et Barnabé s'y mettait un peu. Finalement, il lui a carrément foutu la main sur le slip et se sont retrouvés collés l'un après l'autre. Les Africains, là-bas, ils ont une façon assez bizarre de faire l'amour. C'est pas tam-tam, pas du tout. Ils cherchent surtout à frotter leur corps sur vous. Barnabé se mettait sur lui un peu maladroitement, face contre face, et c'était comme une sorte de rythme entraînant. Il ondulait sur lui comme un fauve. Et puis, brutalement, au bout de 5 minutes, Pierre ne s'y attendait pas du tout, le Barnabé lui fait « Alors, qu'est-ce que tu me donnes comme cadeau ?» Ah bah l'autre il tombait de haut. Ah, on peut pas voir ça après, non ? Non, tout de suite. Et il saute du lit, il attrape le petit Lacoste rose sur la chaise. Le Pierre il se met à calculer à toute blinde. Bon Dieu, un Lacoste c'est 350 balles. C'est beaucoup trop cher. Un noir à 30 balles, oui, mais pas un Lacoste. Il lui raconte des salades, comme quoi il pouvait pas pour le Lacoste. Finalement, il lui a filé 50 balles et ça a été comme ça. Mais ils ont bien parlementé 20 minutes. Après ça, on se refout au pieu, on s'embrasse à qui mieux et on se pompe gaillardement. Barnabé disait avec amour, donne-moi encore ton lait. Et Pierre le suçait aussi, d'ailleurs ça l'a frappé la première fois. Le sperme des Noirs, c'est un sperme à la chlorophylle. C'est comme les chocolats à l'amande de chez Harrods. C'est très rafraîchissant. Bref. Ils se sont revus comme ça régulièrement une fois par semaine. Pierre allait directement chez lui, il habitait un bidonville au bord de la mer. Une espèce de cabane construite en branches de palmier où s'entassait toute une ribambelle de frères et de sœurs. Il lui achetait des cartons de lait concentré, c'était très fortifiant. Et puis ils allaient faire l'amour sous la lune, sur des plages désertes. Mais toujours avant, Barnabé faisait jouer tous ses muscles devant lui. Et ça, Pierre, ça le mettait en transe. Naturellement, il a rencontré là-bas plein d'autres types, des malabars mélangés d'Africains et de Portugais. Ah, ça leur fait un poil magnifique. Il venait toujours lui proposer quelque chose, des filles ou des statues fétiches, et il finissait par les emmener dans sa chambre. Enfin, presque toujours, parce qu'il y en avait qui étaient très musulmans et très croyants. Là, forcément, Pierre se cassait le nez. Tous, d'ailleurs, voulaient devenir son ami. Comme Antoine, qu'il a trouvé un jour dans un bar sur la route de Togo. C'était un petit mec de 19 ans ou 20, tout en sueur et enroulé dans un pagne très clair qui montrait une musculature fabuleuse. Ce jour-là, Antoine avait une crise de palu parce que là-bas, ils ont tous le palu. Bon, Pierre lui file des médicaments, ils deviennent copains. Le bar est à 80 bords de Cotonou. Pierre s'est dit qu'il repasserait par là, c'est sûr, et c'est ce qu'il a fait 2 jours après. C'était dans la Brousse, un petit village avec des cahutes en terre séchée. Il arrive au bar et Antoine lui saute au cou en lui faisant le baiser sur la bouche à la russe. Mais appuyé, hein ? Et ça devant tout le monde. Pierre était scié, mais c'est la coutume ici. Ils vont faire un tour en bagnole jusqu'à la Cossa. C'était le soir, et roulé comme ça au milieu des cèdres bleus, des sumacs et des tulipiers géants, avec le ciel en feu et Antoine à côté de lui, ah, c'était céleste. En causant, Pierre a appris très vite qu'Antoine avait déjà eu un ami allemand qui lui avait même écrit des cartes postales pendant un an. Bref, le gamin, c'était un affranchi. Finalement, ils ont fini dans un hôtel tout ce qu'il y a de plus africain avec Simon Bouchardet sur les murs, ventilo et lit de fer. Tout de suite, ils ont fait connaissance sur le lit. Antoine s'est renversé en arrière avec juste un petit slip jaune citron qui donnait de l'éclat à sa peau, les mains derrière la nuque, il bandait, puis il attendait. Avec lui, c'était toujours comme ça, il attendait qu'on l'aime. Ils sont restés amis jusqu'au bout. Pierre lui filait parfois du pèse pour aller danser avec les filles à Lomé dans les discothèques, et Antoine se mettait en quatre pour le servir. C'était le petit frère. Il l'a d'ailleurs emmené au village sur les bords de Mono pour le présenter à son père qui était douanier. Les cousins et les cousines sont arrivés, on a bu beaucoup de bière, on a photographié tout le monde, et même le chef du village en bambou. Pierre était très touché par tout ça, puis les petits cadeaux, ma foi, c'était comme un hommage à Antoine. D'ailleurs, Pierre était à deux doigts de l'emporter avec lui en France, mais comme il l'avait déjà fait il y a 5 ans avec un Brésilien, évidemment, il pouvait pas vivre avec deux hommes à la fois, ça se fait pas.
Pluriel Gay, l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Je vais encore recevoir des lettres, tu crois?
Là, là, ça bande dans toute l'histoire.
Hein. Désolé les filles, c'est très gay hein, comme, comme texte. Voilà, donc Arletto, bah, il va revenir un peu toutes les semaines comme ça. Alors le texte a été un petit peu long, mais la prochaine fois, ce sera des textes un petit peu plus courts. Là, comme c'était l'introduction de Arletto sur les antennes.
Merci Arletto.
Voilà, on a diffusé un son un petit peu long. Voilà, donc normalement, nous aurions dû avoir Romain Valet de Hétéroclite. Mais Romain, pour l'instant, ne répond pas au téléphone. Mais il m'avait dit qu'il serait difficilement joignable quand même parce qu'il est en réunion. Donc, pour l'instant, bon, on va insister, on va continuer d'appeler. En attendant, ce qu'on va faire, on va écouter le titre que j'avais prévu, un autre titre, avant de revenir à Exit.
Et quel est-il ?
Eh bien, ça s'appelle L'aveu. L'aveu de Stéphane Corbin. Est-ce que tu connais Stéphane Corbin ?
Eh ben non.
Non. Eh ben c'est un artiste qui a sorti l'an dernier un album complet avec en collaboration avec d'autres artistes, par exemple Amanda Lear, des gens comme ça. Oui, des gens très connus. Et il y a eu de nombreux artistes, des graphistes aussi, enfin plein de gens qui sont des musiciens, des interprètes, des auteurs, etc. Qui ont, en tout 200 personnes qui ont participé à son projet. Qui l'a, comment dire, élaboré, je dirais, suite à la manif pour tous. La manif pour... Ah, bon, on me dit que Romain est là. Il est là, Romain ? Bon, eh ben, je continuerai après. Voilà.
Et ben,
j'ai fait le teaser.
Le titre
pour...
après.
On reviendra le titre.
On a hâte.
Stéphane Corbin l'a vu. Mais on a Romain en ligne, donc on va prendre Romain à la radio. Les filles, elles vont se dire, mais où on est tombé ? Elle est trop TD, cette émission.
Tout un programme.
C'est un truc tout de TD, cette émission. Il y en a marre.
Quelle promesse, hein.
Bonsoir cher Romain du
bonsoir,
magazine.
Bonsoir Gérald et bonsoir à toute l'équipe de Pluriel Gay. Bonsoir Bernard. Je ne sais pas qui est avec toi ce soir. Hein.
Alors Bernard et Boris.
Bernard et Boris.
Voilà. Bernard est en train de transmettre à Boris son savoir. Parce que Bernard se retire petit à petit. Voilà, tu sais, comme les grandes stars qui, au bout d'un moment, lassées par une vie trop remplie, préfèrent se retirer du monde.
Mais oui, mais il va faire une tournée d'adieu qui durera 15 ans et puis.
Voilà, et donc c'est Boris.
J'ai tout compris.
Voilà, et nous, nos invités, donc il s'agit de trois jeunes filles qui s'appellent Lila, Lena et Charlotte et qui font partie de l'association Exit. L'association d'étudiantes du campus de la Doua que tu connais, Romain, puisque...
Bien sûr, et je les salue également.
Et que, pardon ?
Et que je les salue également.
Et voilà, et vous savez. Voilà. Romain, journal hétéroclite. Voilà, le mensuel hétéroclite, donc c'est la rentrée aujourd'hui aussi, puisque nous sommes le premier mercredi.
Tout à fait.
Et nous, il nous avait paru intéressant de savoir un peu comment s'annonçait cette rentrée 2016. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qui a inspiré l'équipe d'Hétéroclite pour ce numéro de septembre, alors ce numéro d'après-d'été, le premier numéro après les vacances?
Eh bien, on a voulu procéder à une légère refonte de la maquette et notamment de la couverture d'Hétéroclite, puisque on a, après avoir collaboré pendant un an avec Virginie Keaton pour une illustratrice lyonnaise pour les couvertures d'Hétéroclite, on collabore désormais avec une autre artiste lyonnaise, Marion Bornaz, qui est photographe pour sa part et qui va nous proposer une série de photographies, de 11 photographies pour toute la saison 2016-2017. Donc voilà, si vous avez trouvé Hétéroclite aujourd'hui, ce matin, peut-être que vous avez été surpris de voir que ce n'était plus une illustration comme la saison dernière, une photo. Voilà, donc là, pour cette première... cette première édition de la saison, donc j'ai essayé de décrire pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur, mais on voit, c'est sur un fond bleu, en fait c'est dans un bain, une eau très bleue, et on voit juste une main qu'on suppose être une main de femme, puisque apparemment le pouce, l'ongle du pouce est verni en rouge, et il y a juste les dernières phalanges, les extrémités des phalanges qui dépassent de l'eau, et là où devrait être la paume, il y a quelque chose qui ressemble à un œuf. Voilà. Donc,
c'est ésotérique, il y a un message, non?
Non, mais il n'y a pas de message à proprement parler, mais c'est vrai que...
Artistique, quoi, simplement. Une démarche,
oui,
artistique.
Et on peut y voir plein de choses. Moi, j'aime bien cette photo. Ça fait, ouais, ça fait penser un peu à la naissance ou à la maternité. On y a aussi un peu un ventre un peu bombé de femme enceinte, ouais, par exemple.
En tout cas, ça va attirer l'œil, la couverture déjà d'Hétéroclite.
Je crois qu'elle inspire l'œil, voilà. Sur un fond rouge, il y a une bordure rouge, le fond de l'eau est bleu, et puis il y a une bordure rouge. Mais voilà, je crois que ça accroche l'œil.
Alors,
c'est ce qu'on voulait.
En fait, vous êtes revenu un peu à ce qui existait auparavant, puisque les saisons, à part l'an dernier, les saisons précédentes, c'était aussi un photographe qui, pendant de nombreuses années, a illustré la couverture d'Hétéroclite.
Oui, alors on a eu plusieurs avant Virgin Keaton, on a eu effectivement un photographe, Cédric Rouya, qui a fait 3 saisons avec nous. Et puis avant ça, on a eu des fonds unis, et puis avant ça, on avait des photographies. Mais qui n'était pas le même photographe tous les mois.
D'accord.
Voilà. Alors, donc, effectivement, on essaie de changer régulièrement aussi le concept de notre couverture pour que les gens ne se lassent pas, tout simplement, et qu'ils aient toujours envie de prendre Hétéroclite.
Alors là, je vais m'adresser aux filles de Exit. Est-ce que vous trouvez, est-ce qu'on trouve Hétéroclite sur le campus de la Doua?
Très bonne question.
Bon, alors tu vois, Romain, il va falloir.
Je pense qu'on le trouve à la maison des étudiants, à la Doua.
À la maison des étudiants.
Bon. Ouais.
D'accord. Bah, il faudra en récupérer quelques-uns pour retrouver.
Je suis jamais allé vérifier, ouais, mais si c'est pas le cas, dites-le-moi et je taperai sur les doigts du distributeur.
Très bien.
Parce qu'il est censé y aller.
Alors, en ce qui concerne donc, on a vu pour la forme, mais pour le fond. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant par rapport aux articles de ce mois-ci, en dehors des rubriques déjà connues, enfin, je suppose que vous le reconduisez, les rubriques, il y a une rubrique culinaire qui est très amusante.
Voilà, il y a toujours la recette de Boubi, donc notre rubrique culinaire.
Ouais, très sympathique, oui.
Voilà, ce mois-ci, elle nous propose le flan cul sans prise de tête.
Ah, c'est très très amusant, il faut vraiment la lire, cette rubrique, parce que c'est vraiment bien foutu, c'est toujours
donc,
très
le
amusant.
Le flan cul, c'est la recette qui nous dépanne quand on est affamé. Quand on rentre de vacances et qu'on n'a pas le temps de se lancer dans la grande gastronomie, on va au plus simple, au plus direct, ouais, sans prise de tête, sans blabla, nos pics, nos dials. et voilà, donc c'est Boubi qui nous propose sa recette.
Ouais.
Juste en face, hasard ou pas hasard d'ailleurs, de la pagination, mais on a un article de Didier Rodbétony sur les Think Six Gay Video Awards, qui sont un peu les Oscars ou les Césars du cul, puisque ce sont en fait des récompenses décernées par la chaîne Pink X, donc chaîne gay, notamment de porno gay, donc il y a différentes catégories, il y a le meilleur actif, le meilleur passif,
les filles, elles sont enchantées d'être venues.
Elles vont partir avec des valises.
C'est pas très féminin, malheureusement. Il faudrait une chaîne aussi comme ça pour les filles. Mais donc il y a Didier a regardé consciencieusement 50 films, les 50 films sélectionnés, pour pouvoir déterminer quels étaient ses chouchous, oui, les favoris, les pronostics, voilà. Il compte beaucoup notamment sur Mr. Pam, qui est, comme son nom l'indique pas, qui est en fait une femme, qui est la seule réalisatrice, la seule femme qui est réalisatrice dans l'industrie du porno gay américain.
D'accord.
Et qui, d'après Didier, mériterait véritablement de remporter un prix. Elle est en lice pour le prix du meilleur film étranger et celui du meilleur réalisateur. Et voilà.
D'accord.
Donc, nos pronostics, c'est on mise tout sur Mister Pam.
Alors, est-ce que le numéro de septembre des Terroglyphes s'est inspiré un petit peu des événements de l'actualité, on dira récente. Bon, je ne sais pas si vous avez évoqué la tuerie de Orlando ou si vous avez eu le temps de boucler sur Ann Kader, la femme transgenre.
Non, on n'a pas parlé de Ann Kader, effectivement. Orlando, on en avait un peu parlé, comme c'était en juin, on en avait un peu parlé dans le numéro d'été, plutôt.
Ouais.
Et là, j'en parle, à vrai dire, dans l'édito, de façon
d'accord.
un peu détournée. Je reviens sur un sujet que j'ai déjà traité par d'autres biais, mais j'y reviens toujours un peu, c'est un peu un de mes dada, mais c'était la question des relations entre les communautés ou les minorités, je sais pas comment il faut dire, mais les communautés homosexuelles et musulmanes. Et les tensions causées par l'actualité, par la tuerie d'Orlando, évidemment, par un climat aussi, un climat général qui pousse à l'affrontement. Et je parle notamment du fameux conseil donné à Jean-Pierre Chevènement le mois dernier, quand il a recommandé notre nouveau grand moufti de la République, quand il a recommandé aux musulmans de se faire discret. Et dans l'édito, je tente un parallèle en rappelant que cette injonction à la discrétion, nous, personnes LGBT, on la connaît bien aussi.
Oui.
Et on a appris à s'en méfier et à la défier et à, au contraire, à affirmer notre présence dans l'espace public, à être visible. Et on sait à quel point c'est important d'être visible et à quel point la discrétion, même quand elle se présente sous des atours bien intentionnés, quand on dit non mais c'est pour votre bien, faites-en pas trop, etc. Comment en fait, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est une injonction extrêmement violente qui, loin de nous protéger, permet aux discriminations de perdurer.
Voilà, d'ailleurs, nous en discutions un petit peu avec Exit, c'est aussi une des raisons de leur existence, une association conviviale qui permet justement de créer de tisser des liens dans la communauté LGBT présente donc sur le campus de la Doua. Alors, j'évoquais Ann Kader, j'aimerais bien en parler 5 secondes avec toi, Romain, parce que je sais que tu as une opinion aussi sur ce qui s'est passé en Turquie. On rappelle que c'est une femme transgenre qui a été un peu le fer de lance de la marche de fierté turque, qui a été très violemment, agressée par la police, hein, puisqu'elle était interdite en fait, et puis quelques courageux sont quand même descendus dans la rue et ont été agressés par la police turque. Donc voilà. Et Ann Kader, donc la personne en question, était en tête, je dirais, des personnes qui ont affronté la police. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu en vidéo, etc. Et le mois dernier, il y a à peu près un mois environ, elle a été retrouvée assassinée. Donc, Ann Kader est une personne qui vivait de la prostitution. Semblerait-il, a probablement été assassinée, semble-t-il en tout cas, par un client, on n'en sait pas plus. Elle a été assassinée et brûlée, en fait. Hein. C'est brûlée vive, d'après ce que l'autopsie a révélé. Et à ce sujet, je disais donc que... depuis 2008, quand même, et c'est là que ça doit nous interpeller aussi, plus de 2000 personnes trans ont été assassinées en Turquie. Mmh. Voilà. Donc, la transphobie présente là, pour ceux qui en douteraient en tout cas, un jour réel, quoi, se présente sous son jour le plus cruel. Mais c'est une réalité. Je pense que tu ne vas pas dire le contraire.
Et oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'histoire de Ann Kader, donc, du coup?
Oh bah de l'horreur un peu comme à tout le monde, à tout le monde en tout cas dans cette émission j'imagine. Et puis je pense il faut rappeler aussi que malheureusement c'est pas spécifique à la Turquie ou à un pays en particulier, mais que des meurtres de trans, on a également alors peut-être pas dans les mêmes proportions, tu disais 2000,
oui.
2000 depuis 2008, c'est
oui.
ça ?
C'est plus de 2000 personnes, depuis 2008, qui ont été... De personnes trans, donc les personnes trans sont véritablement visées par une sorte de meurtre collectif, quoi, quelque part.
Mais c'est également un problème à tel point qu'il y a presque une... on pourrait presque parler d'une sorte d'épidémie de meurtre de personnes trans, notamment aux États-Unis, où notamment les trans afro-américaines ou afro-américains sont extrêmement touchés Ça existe aussi au Brésil. En France, il y en a sans doute moins à ma connaissance, mais si heureusement les meurtres sont beaucoup plus rares, il y a évidemment toujours des violences, des discriminations, des insultes, des coups. Et puis, encore lundi soir, il y a eu, depuis lundi soir, il y a un début de polémique au sujet d'une présentatrice, une journaliste trans qui officie au grand journal de Canal+.
Oui, Brigitte Boréal.
Et qui a dû endurer, alors bien sûr, c'est pas comparable avec un meurtre, ni même avec des agressions dans la rue, etc. Mais c'est aussi cette espèce de transphobie ordinaire qui se cache sous le masque de l'humour et de la dérision, et mais oui, on rigole, tu sais bien qu'on t'aime, etc. Mais qui peut être extrêmement violente. Alors elle a aujourd'hui elle a essayé de corriger un peu cette mauvaise image que l'émission avait donnée dans sa première édition, en disant qu'elle l'avait pas mal pris, que c'était une blague, etc. Bon, après, je pense que...
Ce qui reste à prouver qu'elle ne l'ait pas mal pris.
Oui. Et puis, je pense aussi qu'elle peut difficilement dire le contraire et cracher sur son employeur, évidemment.
Ouais, voilà.
Mais quand bien même elle serait sincère en disant ça et quand bien même elle l'aurait pas mal pris, je pense que beaucoup de... Enfin, c'est pas uniquement elle qui a été visée par ce... C'est toujours pareil, quand on tient des propos transphobes, on vise pas une seule personne.
Pour rappeler, en fait, ce qui s'est passé, c'est sur la nouvelle formule du grand journal de Canal+. Donc une présentatrice s'appelle Ornella, je crois, s'est adressée donc à Brigitte Boréal, qu'on connaissait déjà par ailleurs pour ceux qui ont regardé Pink TV il y a 10 ans. À l'époque, Pink TV existait, pas sous sa forme Pink X actuelle. Elle était présentatrice déjà, et elle avait un côté nettement plus militant. Mais bon, Pink TV était une chaîne LGBT aussi. Bref, donc là, on la retrouve ici avec plaisir, d'ailleurs, Brigitte Boréal. Et Ornella, donc, qui lui lance une vanne du style « Bonsoir, madame, monsieur ». Puis qui lui dit « On pourrait faire un plan à trois, je vous connais pas, on pourrait faire un plan à trois ». À deux, mais à trois, puisque voilà. Ouais. Hein. Donc c'était très lourd en fait. Et ça fait penser aux vannes qu'on nous lançait à nous, gays, il y a quelques années encore. Je pense à la télé de Jean-Luc Borry. Il y a un docteur qui lui avait. Un docteur psychiatre. On invitait des psychiatres à une époque pour parler d'homosexualité à la télévision.
Philippe Bouvard représentait
des. C'était Philippe Bouvard, tout à fait, Jeffrey. Et il avait introduit, il s'appelait L'Amoroso, je crois d'ailleurs, le psychiatre, pour dire. Ça m'a marqué, j'étais jeune. Et puis on a souvent rediffusé cet extrait, comme assez symptomatique. Finalement, le gars lui dit, le pseudo-psychiatre lui dit « Je dois vous appeler comment, madame ou monsieur ?» en s'adressant à Jean-Louis Borry.
Alors qu'il était un homme. Hein,
Jean-Louis Borry, lui, d'abord était gay, et puis, mais déjà, pour dire... Et là, on
il
retrouve,
lui répond très bien, d'ailleurs.
Voilà, il lui répond effectivement très bien. Et là, on retrouve, alors que Brigitte Boréal reste coate sur ce sujet-là, et a été obligée effectivement de se fendre d'un communiqué, parce que beaucoup certaines associations ont voulu... protester. Elle a dit « Oh, mais non, calmez-vous, les amis, c'était juste une blague entre copines, etc.
Ah, » Ornella Fleury s'appelle l'humoriste.
Ouais. Comment ?
Ornella Fleury s'appelle l'humoriste.
Ornella Fleury.
Je crois que c'est ça. Hein.
D'accord.
C'est la Miss Météo.
Moi, c'est la Miss Météo.
Okay. Ouais. D'accord.
Après, si elle l'a bien pris, tant mieux pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas juste dans son salon avec ses copines en train de blablater. Elles ne sont pas entre elles, quoi. Elles sont regardées.
Ça a une portée.
Ça a une portée et je pense que c'est insultant non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes trans qui ont pu voir cette émission. Donc,
voilà. D'autant plus qu'on a évoqué le problème donc, de la transphobie qui peut aller jusqu'au meurtre. Bon, là, il ne s'agit pas de meurtre, évidemment, mais c'est tout lié, au fond. Il y a une chaîne, moi, je dis, en permanence.
Il
faut toujours y penser. Il n'y a pas de hiérarchie soit dans l'homophobie, soit dans la transphobie. Alors, je voudrais savoir, je vais m'adresser à Exil, est-ce que vous avez des personnes trans qui viennent à l'association Exil, vous voyez, dans les locaux?
Alors, oui, nous avons des personnes trans qui viennent, puisque nous accueillons tout le monde, donc
forcément. Oui, certes, mais est-ce qu'il y en a, justement?
Oui, justement, depuis particulièrement donc, l'année dernière et cette année, il y en a de plus en plus qui s'identifient comme des personnes trans.
Mm-hmm.
Et, nous sommes minoritaires, bien sûr, puisque, bon, même dans la communauté LGBT, il y a des minorités encore.
Oui.
Mais il y a quand même quelques personnes trans et qui arrivent à discuter du coup de ce sujet avec avec d'autres personnes qui sont concernées ou qui sont au moins au courant ouais. de ce qui peut se passer quand on fait partie de la communauté trans, ou qui, beaucoup plus simplement et de façon beaucoup plus pragmatique, peuvent juste demander un changement de pronom ou un changement de prénom sans que cela ne pose question ou qu'on lui dise « bah oui, qu'est-ce qui t'arrive ?» Enfin, ouais. On t'a toujours appelé comme ça, pourquoi on changerait ? Ou « oui, bah de toute façon, si tu fais pas d'efforts sur comment tu t'habilles, on peut pas réussir à changer ton pronom. » Enfin,
d'accord.
D'essayer justement de garder une espèce de, d'ouverture et de faire en sorte que bah, tout le monde se sente bien, toujours. Ouais. Donc...
D'accord. Donc vous êtes sensibilisé aux problèmes, aux problématiques typiquement problématiques. On peut malheureusement parler que de problématiques encore concernant les personnes trans. Mais vous êtes sensibilisé aux problématiques trans, donc à l'association.
Disons que je parle beaucoup pour moi-même du coup là, mais oui, en effet. Enfin, moi oui, j'essaye. Et du coup, bah, ceux qui sont intéressés le sont, et ceux qui sont concernés et qui veulent l'être le sont aussi. Et du coup, on arrive à quand même à parler.
D'accord. Très bien. Alors, Romain, je sais que, je sais pas, vous parlez de politique un petit peu dans le numéro de septembre, parce qu'il y a les élections qui se rapprochent, et je sais que t'aimes bien parler de politique, moi aussi, parce qu'on aime bien dégommer toujours les mêmes, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui ouvrent leur gueule et qui pourront raconter des conneries, mais en l'occurrence, là, tu sais, tu as dû entendre parler de Sens Commun récemment, puisque Sens Commun soutient Fillon, etc., je suis sûr que tu as une opinion là-dessus. Est-ce que vous parlez politique un petit peu dans le numéro de septembre quand même ?
Non, pas tellement dans le numéro. Enfin, il y a l'édito qui parle du coup de ces déclarations de chevènement. Après, on parle plus globalement de politique. Par exemple, on parle des journées du matrimoine qui vont avoir lieu en même temps que les journées du patrimoine.
D'accord.
Et qui sont qui visent en fait à mettre en valeur l'héritage culturel féminin.
D'accord.
Enfin, féminin des femmes plutôt. Donc c'est une façon aussi de parler de politique, même si on parle pas de partis, d'élus, de ministres, etc. Pour Sens Commun, j'ai vu aujourd'hui que il y a deux autres candidats à la primaire qui pleurnichaient parce que ils n'avaient pas été désignés comme le candidat de Sens Commun.
D'accord.
Il y a notamment Monsieur Poisson, qui est un élu de Paris et qui est le vice-président du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin.
Ouais.
Voilà, qui aurait
il
bien
a pas
aimé
été adoubé
être...
par Sens Commun.
Voilà, il n'a pas été adoubé. Hein. Adoubé. Et je disais une interview tout à l'heure qu'il a donnée à Famille Chrétienne, dans laquelle il se plaint, il dit que c'est pas normal, que Fillon peut pas lui faire confiance et que lui c'est le vrai le vrai porteur des valeurs de Sens Commun sur le mariage, sur l'adoption, sur les relations avec l'islam aussi, il le cite aussi en passant espèce de message pas très subliminal. Voilà, et il y a également Hervé Mariton qui a fait pourtant beaucoup d'efforts pour être pour se placer dans la droite ligne de Sens Commun et qui n'a pas été désigné.
C'est sûr qu'il a dû être déçu.
Voilà.
Il a été un des
grands. Je pense qu'en fait,
opposant à la
Mariton,
à
ouais. Et je pense que Mariton et Poisson ont souffert aux yeux de Sens Commun de pas d'être de petits candidats et que Fillon c'était parmi les gros candidats, on va dire celui qui se rapprochait le plus. Ils ont choisi Fillon un peu par à mon avis, c'est un réflexe de vote utile presque. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas disperser leur voix sur des petits candidats. Ils ont choisi Fillon parce que Juppé ou Sarkozy, ou même Copé ou Le Maire, leur paraissaient moins sur la même ligne qu'eux.
Fillon, il a axé son discours sur la filiation, sur retirer tout aspect de filiation, famille, etc., du mariage, pour tout ce quoi. De vider absolument de tout contenu de filiation, quoi, sur rapport à la filiation.
Ce qui manque pas de paradoxe, quand même, quand on se souvient que François Fillon a débuté sa carrière politique en étant le plus proche conseiller d'un élu de la Sarthe, un élu municipal, un maire qui était ouvertement homosexuel à une époque où c'était... ça ne disait pas beaucoup, à la fin des années 70, et ils avaient une très grande proximité à la fois... politique et personnel.
Tu as des photos?
je ne sous-entends rien. C'est un fait qu'ils étaient très proches. Il est mort de cet élu est mort d'une crise cardiaque, je crois. Il est mort quasiment dans les bras de Fillon. J'ai pas dit dans le lit de Fillon. Hein. Il est mort
dans les bras quand même. Tu vois.
Dans les draps. Gérald, enfin. Voilà.
Sur le bras de Fillon. Non.
Enfin, même si François Fillon est hétérosexuel, il n'empêche qu'il devrait être un peu sensibilisé à ces questions-là de par son histoire personnelle et son parcours politique, quoi.
Très bien, Romain. Bah, l'émission va toucher à sa fin, malheureusement. Mais en tout cas, Hétéroclite de septembre est sorti. Il faut absolument se le procurer pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et bien, on se retrouvera certainement le mois prochain pour le prochain numéro d'Hétéroclite du mois d'octobre.
Oui, avec plaisir.
Voilà. Et puis, Romain, je te remercie d'avoir écourté, je ne sais pas, ta réunion. Tu avais une réunion ce soir pour nous. Merci en tout cas. Et je t'embrasse, Romain, et à bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir.
Alors, donc, avant de revenir à la chanson que je voulais passer, il y a quand même deux choses à dire, deux choses très importantes. D'abord, il faut rappeler que nous avons Exit ici, qui nous ont accompagnés toute la soirée. Nous étions enchantés de les avoir. Vous avez un site internet, je crois.
Nous avons une page Facebook, oui.
Une page Facebook. La page Facebook, je mettrai tous les renseignements sur ma propre page Facebook, etc. L'émission, je rappelle, est podcastée sur l'audioblog d'Arte Radio. Merci en tout cas d'être venu. Donc à Lila, Léna, Charlotte de l'association Exit. Et puis je voulais parler de toi, Jeffrey, avant de passer notre petite chanson.
Bah, écoute.
Parce que tu vois, il y a des nouveautés. On parlait en début de l'heure que tu allais. Il y a un nouveau spectacle pour lequel tu as rasé ta moustache.
Oui. Bah, elle va repousser. Elle sera sur scène aussi avec moi. Ouf,
nous sommes rassurés. mais sans Jean-Jacques, du coup.
Sans Jean-Jacques. Non, c'est un tout nouveau.
Vous êtes séparés, non?
Non, pas du tout. D'accord. Mais c'est un nouveau. Il reviendra plus tard. Il voulait faire une pause. Ça s'appellera Pourquoi les mouches.
D'accord.
Ça va être une sorte de conférence sur des questions un peu débiles qu'on se pose.
Questions existentielles, donc.
Existentielles, quand même.
Parce que nous avons compris.
Absolument.
Et ça, le spectacle démarre en.
Le 1er novembre. C'est la toute première, le 1er novembre. Autant ton flingueur, toujours, d'accord, puisque c'est là-bas mon petit laboratoire.
De toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler puisque tu vas revenir nous voir, mon cher Jeff.
À l'occasion de.
Ah ben, peut-être, oui. À fin du mois, nous aurons Mr. Queer France.
Mr. Oh là là, Leather Mr. France. Leather.
Voilà. C'est encore très gay, vous voyez, comme émission. Mais le C2L, le centre, le collectif lesbien lyonnais, m'a promis de revenir régulièrement à l'émission pour des émissions spéciales filles, justement. Hein, voilà. Parce que bon. Moi, je veux des filles à mon émission, mais c'est parfois difficile.
En plus, Laurence n'est pas là en ce moment.
Ah, mais Laurence, tu sais, attend un heureux événement.
Ben oui, je sais.
Voilà.
On pense bien à elle.
Mais je pense qu'on va lui faire un petit coucou, un de ces quatre téléphoniques, quand même, qu'elle nous explique tout.
Ouais, bien sûr.
On l'appellera. Ben, elle ne peut pas venir parce qu'il faudrait la faire rouler pour venir jusqu'ici. Elle est à terre.
La pauvre.
Donc, voilà, elle a très chaud en plus, la pauvre, en ce moment. Bon, on va passer. Merci Boris, merci Bernard d'être venu. Et on va passer donc la fameuse chanson « L'aveu » de Stéphane Corbin dont je parlais. Mais cet album, nous en reparlerons aussi.
D'accord.
À l'antenne, c'est très intéressant.
Eh bien, écoutons
comme
alors.
C'est parti. Merci.
Au revoir,
à tous.
Gérald.
Bonne soirée. À ce
merci.
Prochain.
Je viens de la nuit, mon amour. Des années, je n'ai pas compris. J'étais pourquoi j'aimais ainsi. Je viens de la gêne, du silence, des mots étouffés de l'enfance, d'une terre de sourde violence. Aujourd'hui tout est plus facile, le monde est-il moins imbécile? Ou ai-je seulement le cuir moins fragile? Sur ta bouche je pose mes secrets, à tes pieds je foule le passé, dans tes yeux j'apprends à oublier. Aujourd'hui je marche avec toi, je vis, je vieillis avec toi, un mariage des enfants. Pourquoi pas? Je ne rêve pas d'une vie différente, juste d'une vie qui m'enchante, avec l'homme que je sers contre moi. Aujourd'hui tout est plus facile, le monde est-il moins imbécile? Ou ai-je seulement le cuir moins fragile? Thank you. tes mots j'efface mes regrets. Sur ta peau je trace des projets. Dans ton rire j'apprends la légèreté.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.